Vous écoutez
RMC. RMC, 5h-6h30. Charles Matin, Martin Bourdin.
Bonjour à tous, bienvenue sur RMC. Bon réveil, on est le mercredi 24 avril. J'espère que le réveil justement n'est pas trop difficile ce matin. Si vous êtes en train de sortir du lit, que la nuit n'a pas été trop longue. Si vous êtes au boulot ou peut-être en train de terminer votre nuit de travail, comme tous les jours en tout cas dans Charles Matin, on est là pour vous accompagner ce matin avec de l'info, du débat et de la bonne humeur. Évidemment, équilibre bonne humeur, dit Géraldine de Maurice. Salut Géraldine.
Salut Martin, bonjour à tous.
Ça va ce matin?
Dis donc.
On est raccord.
Quel cœur.
On est raccord, tout va bien en tout cas.
Bah ouais.
Aussi, tout va bien, c'est bien, on est raccord. Géraldine, tu restes avec nous demain et vendredi, t'as pas prévu de prendre l'avion?
Non, pas d'avion. Bon, heureusement, hein.
Oui, tu fais bien parce que ça risque d'être compliqué si vous avez un billet d'avion là pour demain. Les syndicats des contrôleurs aériens appellent à la grève. Et ce mouvement de grève, Géraldine, va être très suivi.
Oui, à Paris, par exemple, un trois quarts des vols annulés pour Orly, deux tiers à Roissy-Charles-de-Gaulle, ça va être pareil à Marseille, Toulouse, Nice, un vol sur deux annulé dans les autres aéroports. Ah, les contrôleurs aériens qui demandent des hausses de salaire pour accompagner une réorganisation du trafic aérien en France.
Des hausses de salaire quand ils gagnent entre 4 000 et 5 000 euros en moyenne, tout salaire compris, salaire plus prime. On en débat hein, ce matin, cette grève.
C'est pas le métier le moins payé.
Voilà, exactement.
Alors après, est-ce qu'il y a pénibilité ou pas, on peut en débattre.
Après, ils estimaient qu'il y a une réorganisation du trafic aérien qui est en cours et ils estimaient avoir besoin de compensation salariale. Les propositions n'ont pas été à la hauteur, les négociations ont échoué. Voilà pourquoi ils font grève demain et voilà pourquoi aussi ils ont déposé un préavis de grève pour les 9, 10 et 11 mai. 9, 10 et 11 mai, c'est entre le 8 et le 12, parce que là, ça va.
C'est en plein pont.
Exactement.
La semaine.
C'est la semaine à laquelle tout le monde prévoit peut-être de partir, en tout cas ceux qui peuvent, le week-end de l'Ascension. Alors, il n'y aura pas la grève, pas de préavis de grève pour le 8 et le 12 mai pour ne pas gêner les départs et les retours de week-end. Voilà ce que nous disent les syndicats de contrôleurs aériens, mais on imagine quand même assez facilement que ça peut gêner tous ceux qui ont prévu de prendre l'avion sur ce week-end-là. Tout ça, alors que les contrôleurs aériens avaient promis en septembre dernier de ne pas faire grève jusqu'à la fin de la séquence olympique, la fin des Jeux paralympiques notamment en septembre prochain. Alors on veut vous entendre ce matin sur cette question, sur ce sujet. Est-ce que vous la comprenez, cette grève des contrôleurs aériens? Est-ce qu'ils ont raison de se mobiliser? Venez nous le dire au 32-16. Vous venez témoigner également si vous aviez un billet d'avion pour demain ou pour le pont de l'Ascension. Comment ça se passe pour vous? Comment ça va se passer pour vous? Est-ce que vous avez réussi à être remboursé? Est-ce que vous avez réussi à obtenir des compensations pour demain si jamais votre billet d'avion a été annulé? Puis évidemment, si vous êtes contrôleur aérien, si vous prévoyez de faire grève, vous prenez la parole quand vous voulez ce matin sur RMC. Vous venez expliquer les raisons de la mobilisation, les raisons qui vous poussent à faire grève demain. Le 32-16 vous est ouvert. Vous pouvez aussi évidemment laisser vos messages sur l'appli RMC rubrique direct studio. On vous attend, vous intervenez en direct quand vous voulez sur RMC.
Oui, il y a déjà du monde hein, d'ailleurs. Hein. On fait coucou à Momo, à Didier, à Nicolas là, qui sont tous déjà sur direct studio. Et puis on va retrouver évidemment tous nos rendez-vous. On va aller aux toilettes, tiens, avec Anthony Morel qui va nous présenter les WC du futur. Direction les États-Unis dans la Story Sport d'Alex Biggerstaff, une info RMC Sport. Olivier Giroud qui jouera à Los Angeles à la saison prochaine.
Olivier Giroud qui va pouvoir vivre son rêve américain. Bon réveil, bon mercredi sur RMC, il est 5h.
RMC, Charles Matin.
Et à 5h, toute l'info, c'est avec Thomas Schnell. Bonjour Thomas.
Bonjour Martin, bonjour à tous. 75% des vols annulés demain à Orly, 65% à Roissy et à Marseille. La grève des aiguilleurs du ciel jeudi sera très suivie. Un gage de confiance, de transparence et d'économie. Voici comment Bruno Le Maire défend la simplification du bulletin de paix. Et puis le PSG sera-t-il sacré champion de France dès ce soir? Tout pourrait être bouclé pour la Ligue 1 à Lorient.
On se dirige vers un jeudi noir demain dans les aéroports. Un vaste mouvement de grève va paralyser les airs.
Les compagnies aériennes vont devoir annuler 75% des vols à Orly, 65% à Roissy, Charles de Gaulle à Marignane, 60% à Toulouse et Nice. En pleine vacances scolaires, beaucoup de voyageurs se retrouvent coincés, Margot Boult.
Deux semaines sous le soleil de Guadeloupe, c'est censé être le voyage de l'année pour Fanny et son conjoint.
On a investi dans des caméras pour aller sous l'eau, on a investi dans des sacs étanches, on a vraiment investi dans ce voyage.
Décollage prévu demain matin, mais avec la grève, Fanny risque de perdre gros.
C'est très très stressant parce qu'en fait, on a prévu un hôtel pour dormir sur Orly pour justement avoir de l'avance. Et en fait, jusqu'alors, on ne sait pas si on va aller à Orly pour rien.
La compagnie ne répond pas au téléphone.
C'est très très stressant et très énervant parce qu'on a vraiment aucune aucune info et en fait on aura sans doute les informations que trop tard.
Les informations données trop tard aux voyageurs, c'est justement ce que critique Michel Kidor, vice-président de la Fédération nationale des usagers.
Les personnes qui se mettent en grève doivent se déclarer 48 heures à l'avance. On va avoir un plan de transport réduit dont les gens matériellement n'auront connaissance que la veille au soir pour le lendemain matin. Concrètement, nous, ce que nous demandons déjà, c'est que ce préavis soit non pas de 48 heures, mais au moins de 72 heures.
Le syndicat des contrôleurs aériens alerte, en plus des annulations, demain, les voyageurs doivent s'attendre à de très gros retards sur les vols.
Et des perturbations peut-être également pour le week-end de l'Ascension, puisqu'un préavis de grève a été déposé pour le 9, 10 et 11 mai. Tout ça alors que les contrôleurs aériens avaient promis de ne pas faire grève jusqu'à la fin de la séquence olympique en septembre prochain. Venez nous dire ce matin, qu'est-ce que vous pensez de cette grève? Est-ce que les contrôleurs aériens ont raison de se mobiliser pour demander des augmentations de salaire? Est-ce que vous les comprenez? Vous nous appelez au 3216 et puis vous avez entendu l'inquiétude des passagers qui avaient des billets d'avion pour demain. Si vous aussi c'est votre cas, évidemment vous nous appelez ce matin sur RMC, venez nous expliquer comment ça se passe, venez nous expliquer dans quelle situation vous êtes ce matin. Le 3216, vous êtes ouvert, vous avez aussi la possibilité de laisser des messages sur Direct Studio, sur l'appli RMC.
Dans les Hauts-de-Seine, un homme suspecté d'avoir menacé de mort une femme de confession juive pour venger la Palestine. Il l'aurait séquestrée et violée le week-end dernier avant d'être arrêté, Guillaume Bier.
La jeune femme a connu cet homme via une application de rencontre, mais leur relation, au départ consentie, aurait très mal tourné le week-end dernier. Dimanche, elle appelle sa mère, lui disant qu'elle est séquestrée dans un appartement. L'homme qui la retient, selon elle, utilise le téléphone pour envoyer des messages menaçants aux proches de la jeune femme juive sur fond d'antisémitisme, écrivant qu'il voulait, je cite, « venger la Palestine ». Grâce à l'intervention des policiers de la BRI, l'appartement est localisé à Gennevilliers et la victime retrouvée en bonne santé. Le suspect de 32 ans est arrêté. Au final, cet employé des transports, jusqu'ici inconnu de la police, sera jugé dans 2 mois pour usage de drogue et menace de mort écrite en raison de la religion. La séquestration n'a pas été retenue. Quant aux accusations de viol portées par la victime, elles font l'objet d'une autre enquête en parallèle.
Kenji Girac est tiré d'affaire selon son manager. Le chanteur reste hospitalisé, mais il est sorti du bloc opératoire. Après avoir été blessé par balle dans les Landes, les enquêteurs poursuivent leurs auditions des proches de l'artiste pour tenter d'éclairer les circonstances du tir.
15 lignes au lieu de 55. Les nouvelles fiches de paie ont été dévoilées
par le ministre de l'économie qui entend décharger les chefs d'entreprise des lourdeurs administratives par une série de mesures de simplification, dont la suppression des formulaires CERFA, très attendue par les entreprises, à Ameline Lafchin.
Dans son salon de beauté bordelais, régulièrement, Alice doit remplir ce fameux formulaire.
Il y a toujours un document CERFA dès qu'il y a une modification administrative. Dès qu'une de mes salariées est malade, tout de suite, c'est remplir un formulaire CERFA.
Une démarche obligatoire, mais pas toujours évidente pour cette chef d'entreprise.
C'est toujours un peu complexe, avec toujours ces petites lignes un peu compliquées. En fait, c'est toujours la quête du bon formulaire. C'est vrai qu'il y en a des tonnes et des tonnes.
1200, plus précisément. Et en plus d'être un véritable casse-tête, la validation administrative de ces documents peut parfois être très long.
De devoir se dire « Ah, j'ai toujours pas eu la réponse ». Voilà, c'est une sorte de charge mentale qu'on n'a pas envie d'avoir.
Supprimer ce document est donc une bonne nouvelle pour les entreprises. Bernard Cohen-Haddad est président de la Confédération des petites et moyennes entreprises de Paris-Île-de-France.
C'est jamais agréable de passer son temps à répéter une, deux, trois, quatre fois la même chose. Deuxièmement, on enlève le risque d'erreur. Et enlever le risque d'erreur, c'est aussi de simplifier la vie.
Selon le projet de loi, 80% de ces formulaires devraient avoir disparu d'ici à 2026.
Voilà la promesse de la simplification, moins de lourdeur administrative pour les entreprises. Est-ce que, si vous êtes chef d'entreprise, c'est la fin du cauchemar administratif pour vous? Est-ce que vous soufflez un peu ce matin quand vous entendez toutes les promesses de simplification du gouvernement? Ben là aussi, tiens, venez témoigner ce matin au 3216, appelez-nous au 3216 et sur l'appli RMC, rubrique Direct Studio, venez nous dire ce que vous pensez de tout ça. Si, enfin, vous allez pouvoir avoir la vie un peu plus simple. 3216.
Le gouvernement a décidé d'affecter 650 millions d'euros aux EHPAD, dont 190 millions pour les établissements publics, en réponse aux grosses difficultés financières du secteur, annonce la ministre déléguée aux personnes âgées, Fadila Khattabi, au Figaro.
Les arboriculteurs et les vignerons, eux aussi, demandent un geste au gouvernement.
Pour faire face à la vague de gel qui menace une partie de la saison, avec des températures négatives jusqu'à moins 5 en Haute-Marne, moins 3,5 en Creuse, ça devrait se poursuivre au moins jusqu'à vendredi. Pierre Abry est président de la coopérative Le Vigneron Savoyard. Le bilan n'est pas définitif, mais pour l'instant, 5 à 8 hectares de jeunes gelées ont été comptabilisées.
Et au petit matin, eh bien, on avait certainement des températures autour de moins de 2 degrés et qui ont fait que les pousses, eh bien, elles n'ont pas résisté à ce froid et donc elles sont complètement brûlées. On voit qu'ici, c'est comme si on l'avait brûlée avec un chalumeau, avec un briquet, avec du feu. Et à l'origine, elle était verte normalement comme les brins d'herbe, mais bah, là, on voit que tout est noir. Fort heureusement, ça ne représente pas la totalité de l'exploitation. Environ 15% de la surface. Mais pour ces parcelles les plus touchées, on sait qu'il n'y aura aucune récolte dessus.
En football, le Paris Saint-Germain se déplace à Lorient à 19h. Match en retard de la 29e journée de Ligue 1. Rencontre à vivre en intégralité sur RMC. Et c'est ce soir que le club de la capitale pourrait être sacré champion de France pour la 12e fois de son histoire, Arthur Perrault.
Oui, et pour le club parisien, l'équation est simple. Il doit battre Lorient et espérer que Monaco ne l'emporte pas ensuite contre Lille. Mais malgré cet enjeu, l'entraîneur Luis Enrique pense surtout à la performance de ses joueurs.
Ce qui est important, c'est comment on va gagner. C'est ça notre objectif. Comment on va affronter ces matchs. Il nous reste 8 matchs, on espère 9. Mais pour le moment, il y a beaucoup de travail encore à fournir.
Un titre pour se rapprocher d'un quadruplé historique. Championnat, trophée des champions, Coupe de France et Ligue des champions. Le coach espagnol en rêve déjà.
Oui, sans aucun doute, c'est une motivation de faire ce qui n'a jamais été fait. C'est marquer l'histoire de notre club. Si c'est bénéfique pour le pays aussi, tant mieux. Il faut continuer à lutter en championnat aussi. On est là où on voulait être. Il faut vraiment qu'on soit concentré et inspiré pour atteindre nos objectifs.
Paris pourrait apprendre son sacre en plein vol de retour du Morbihan avant d'être fêté en triomphe par ses supporters vers 23h30 à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle.
Et puis écoutez cette histoire. Ivre, virgule, un Belge de 40 ans n'avait en fait pas bu. Il était poursuivi et comparaissait devant le tribunal de police de Bruges pour une condamnation pour ivresse en récidive. Mais en fait, c'est son corps qui sécrète naturellement de l'alcool. Il a consulté 3 médecins pour prouver qu'effectivement, il n'avait pas bu, mais que pourtant, il était positif à l'alcoolémie, à l'alcotest. En fait, c'est un syndrome très rare qu'on appelle d'auto-fermentation. Après avoir mangé des aliments à haute teneur en glucides, on parle du pain, de pommes de terre ou de haricots, eh bien, son système digestif va produire de l'éthanol. C'est, selon son avocate, un syndrome qui est sous-diagnostiqué dans le monde, puisque seule une vingtaine de personnes en seraient officiellement atteintes.
Ah ouais. Ça peut être dangereux quand même, hein, au final.
Ça peut être difficile de se faire croire par les policiers.
Alcoolisé, alors qu'on n'a pas bu, c'est quand même assez dingue. Effectivement, les policiers doivent avoir du mal à croire. Ça peut être compliqué à comprendre. Merci beaucoup, Thomas. On te retrouve dans une vingtaine de minutes pour un nouveau journal. On va filer au 32-16 tout de suite. Tiens, on va prendre la direction des Bouches-du-Rhône, retrouver Momo. Bonjour, Momo.
Et bonjour à tous.
Comment Salut,
ça
Momo.
Va ce matin, Momo? Ça va. Ça pourrait aller mieux si on aurait pas ce Mistral depuis une dizaine de jours.
Ah, il fait froid aussi dans les Bouches-du-Rhône, là, du côté du
Ah ouais, non, mais il est vraiment capricieux, ce Mistral. Ouais. Il est vraiment capricieux, il se renforce. Et quand on n'est pas au soleil, il est un peu glacial. Quoi.
Ouais. Ça va bien souffler encore aujourd'hui. Hein.
Ouais, c'est pas prêt de s'arrêter, apparemment.
Bah, fin de semaine, ça devrait s'arrêter, mais du coup, vous aurez de la pluie.
Ah ben je préfère la pluie 100 fois parce qu'on en a besoin et le vent franchement ça met de mauvaise humeur. Hein.
Bon ouais, le Mistral il est bien pratique pour l'OM quand même, parce que l'OM a le vent dans le dos en ce moment.
En Coupe d'Europe plutôt.
C'est intéressant, ça joue ce soir à Marseille, c'est ça, contre Nice au Vélodrome.
Oui, et ben ce soir j'y serai comme d'hab.
Comme d'hab. Ça va être quoi le résultat? Ils ont fait 2-2 contre Toulouse la semaine dernière. On pense qu'ils peuvent aller chercher la victoire ce soir face à Nice. C'est un beau match, hein. C'est un gros match pour l'OM qui est face à Nice, qui est 5e de Ligue 1.
Bah oui, c'est un derby. On espère la victoire parce qu'on a une certaine force à domicile. Mais par contre, moi, je veux que cette saison finisse le plus vite possible parce que franchement.
C'est compliqué.
Ouais, c'est compliqué. Il y a que la Coupe d'Europe qui est une bouffée d'oxygène pour nous les supporters.
Et justement, là, il y a la perspective de cette demi-finale de Coupe d'Europe qui arrive face à l'Atalanta Bergame. Faut faire tourner ce soir pour l'Olympique de Marseille, ou faut essayer quand même de jouer le coup à fond parce que c'est un derby quand même.
Il reste pas beaucoup de matchs. Il vaut mieux privilégier le championnat pour avoir une place européenne plutôt que. Compter sur la Coupe d'Europe pour avoir une place, en Ligue des Champions.
Ouais, quoi. Parce qu'il faudra aller la gagner, la Coupe d'Europe, et c'est pas forcément simple.
C'est pas forcément simple. L'Atalanta, c'est au-dessus de nous. Et même si on passe, admettons, contre l'Atalanta, ou la Roma, ou les Leverkusen, c'est bien au-dessus de nous. Mais après, bah, voilà, comme on dit, impossible n'est pas marseillais.
Impossible n'est pas marseillais. On suivra ça, évidemment, ce soir, hein, Marseille-Nice, l'un des trois matchs de Ligue 1 au programme ce soir. On suivra tout ça, évidemment, sur RMC. Marseille-Nice à 21h, en même temps que Monaco-Lille. Et puis à 19h, le Paris Saint-Germain, on le disait dans le journal, qui peut remporter son titre de champion, son 12e titre de champion de France. Désolé, Momo, hein, ça ne doit pas vous faire plaisir que je dise ça, mais ils peuvent être champions de France pour la 12e fois ce soir s'ils remportent le match à Lorient.
Ouais. Bon, ben, allez, l'OM quand même.
Allez, l'OM.
Et puis, Momo, vous nous laissez un petit message demain pour nous dire comment c'était le match ce soir.
Oui, il n'y a pas de problème. De toute façon, comme d'hab, on va rentrer un peu tard et on ne va pas trop dormir.
Et oui, parce qu'on attaque tôt le matin. Mais bon, oui, ça vaut le coup pour la passion de l'Olympique de Marseille. Merci, Momo, de nous avoir appelé ce matin.
De rien, bonne matinale à tous.
Bonne journée. Et bon courage avec le vent qui souffle sur les Bouches-du-Rhône en ce moment. Pas mal de messages ce matin, déjà, Géraldine, sur Direct Studio.
Mais oui, puis vous êtes nombreux à réagir à la grève des contrôleurs aériens. Alors, pour Sébastien, c'est une honte, voilà, avec un tel salaire, demander encore une hausse alors qu'il y a des gens qui galèrent. C'est pas normal. Laurent, lui, n'est pas d'accord. Vous pensez qu'un contrôleur aérien gagne bien sa vie? Oui, mais il a une pression énorme car il n'a pas le droit à l'erreur. Donc, ça vous divise. Hein.
Et oui, c'est vrai que c'est pas parce qu'on gagne peut-être plus que certaines autres catégories de la population, on n'a pas forcément le droit de faire grève non plus. Venez nous le dire ce matin, ce que vous pensez de cette grève des contrôleurs aériens. Est-ce qu'ils ont raison de se mobiliser? Est-ce qu'ils vous comprenez cette grève? On attend vos appels. Hein. Si vous prenez l'avion, si vous aviez prévu de prendre l'avion demain, comment ça se passe pour vous? Est-ce que c'est une galère? Vous nous appelez au
32-16. Ils avaient promis qu'il n'y aurait pas de grève jusqu'au JO.
Ils ont promis ça en septembre dernier. Ouais. Et ils avaient promis qu'il n'y aurait pas de grève pour des revendications salariales jusqu'au mois de septembre de cette année. Bon, bah, c'est raté. Venez nous dire ce que vous en pensez de tout ça. Le débat continue sur RMC. Toute la matinée, vous faites le 32-16. Vous laissez vos messages sur l'appli RMC, rubrique Direct Studio. 5h13.
RMC, Charles Matin, êtes-vous bien réveillé?
Est-ce que vous êtes bien réveillé? Alors normalement, vous le savez, tous les matins, on vous pose une question d'actu. La question aujourd'hui... mais pas très très difficile, Géraldine.
C'est un sujet dont on parle beaucoup. Quelle profession du secteur aérien sera en grève demain?
Il y a un mot qui doit vous mettre la puce à l'oreille, normalement c'est le mot aérien. voilà, si vous avez la réponse, vous envoyez le mot actu par SMS au 732-16. Actu par SMS au 732-16.
Et un super radio réveil de la marque Muse à gagner pour vous réveiller avec RMC, bien sûr.
Quelle profession du secteur aérien sera en grève demain? Si vous avez la réponse, vous envoyez le mot actu par SMS au 732-16. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Vous êtes bien réveillés sur RMC avec Muse. Toute une collection d'enceintes portables, de radios, casques, platines vinyle et plus encore à découvrir sur muse-europe.com.
RMC, police justice.
RMC, police, justice, votre rendez-vous PJ comme tous les matins avec ce matin le chef du service police justice de RMC, Guillaume Biais. Bonjour.
Bonjour Martin, bonjour Géraldine, bonjour à tous.
Bonjour.
Ce matin, Guillaume, vous nous racontez l'histoire de ce détenu condamné pour s'être mis en scène dans des vidéos TikTok depuis sa cellule.
Oui, c'est ce qu'on appelle le revers de la médaille pour ce prisonnier qui purge une peine de 10 ans et qui a soudainement connu une certaine notoriété après avoir commencé à tourner des vidéos dans sa cellule, mises en ligne ensuite sur TikTok. Des vidéos visionnées plusieurs millions de fois, des séquences plus ou moins loufoques, insolentes ou provocatrices, dont une où il parodie Lara Fabian pour déclarer en chanson sa flamme à la directrice de la prison, ou d'autres où il ridiculise les surveillants pénitentiaires. C'est en tout cas comme cela que certains l'ont vécu, au point qu'un syndicat avait même publié un communiqué mi-janvier pour dénoncer cette situation et réclamer une réaction de l'administration. Faut-il que nous aussi fassions des TikTok, demandait le syndicat. Résultat, dès le lendemain, une grande fouille a été menée dans la cellule de ce détenu et 3 téléphones portables saisis. Fin de l'aventure pour l'influenceur carcéral, entre guillemets, qui est donc passé au tribunal où il a moins fait le malin que sur les réseaux sociaux. Tribunal correctionnel de Lille qui l'a condamné à 10 mois de prison, non pas pour ses vidéos, mais pour avoir possédé des téléphones en détention, sachant que son compte TikTok avec ses 55 000 abonnés avait déjà été supprimé. Donc voilà, il reste en prison, sans téléphone portable pour le moment.
L'histoire de cet influenceur carcéral, comme le dit Guillaume Biais, chef du service police-justice d'RMC.
À suivre dans Charles Matin sur RMC.
Ça va être la pagaille. Demain, la pagaille dans tous les aéroports français. Les contrôleurs aériens sont en grève. Pagaille particulièrement à l'aéroport d'Orly où trois quarts des vols seront annulés. Ce sera deux tiers des vols en moins à Roissy. 50% dans la plupart des aéroports français. 50% de vols en moins des contrôleurs aériens mobilisés contre la réforme de leur secteur. Ils réclament plus d'argent en compensation. Pourtant, en septembre dernier, ils avaient promis de ne pas faire grève d'ici la fin des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques en septembre prochain. Venez nous dire ce que vous en pensez ce matin au 32-16. Hein, on vous attend. Est-ce que vous comprenez les contrôleurs aériens? Est-ce qu'ils ont raison de se mobiliser? Ils appellent aussi à la grève pour... un préavis de grève, en tout cas, a été déposé pour le 9, 10 et 11 mai, en plein week-end de l'Ascension. Ils épargnent pour le moment le 8 et le 12 mai pour ne pas gêner les départs et les retours de week-end prolongés. Voilà ce que disent les syndicats de contrôleurs aériens. N'empêche qu'il y aura un préavis de grève qui a été déposé pour le 9, 10 et 11 mai. Est-ce que vous les comprenez? Est-ce qu'ils ont raison de se mobiliser? Si vous avez des billets pour jeudi, pour le 9, le 10 ou le 11 mai, comment ça va se passer pour vous? Est-ce qu'il y a de l'inquiétude? Est-ce que ça génère un peu de stress? Tout ça, vous nous appelez au 32-16. Et puis évidemment, si vous êtes contrôleur aérien aussi, venez vous expliquer ce matin pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire grève. On vous attend au 32-16. Vous pouvez également laisser vos messages sur l'appli Direct Studio. On en débat tous ensemble toute la matinée sur RMC.
RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin, Martin Bourdin.
Bon réveil à tous sur RMC, il est 5h19.
Vous avez un problème? RMC a la solution. RMC s'engage avec vous.
Et c'est Solène Leroux qui entre dans ce studio pour RMC s'engager avec vous ce matin. Bonjour Solène.
Bonjour Martin, bonjour Géraldine.
Solène, on reparle de la SFAM aujourd'hui, une affaire qu'on vous a révélée sur RMC il y a un peu plus de deux ans maintenant.
La SFAM aujourd'hui, Indexia, n'a plus le droit de vendre de nouveaux contrats, mais jusqu'à l'année dernière, l'entreprise assurait des dizaines de milliers de produits électroniques. Vous en avez peut-être d'ailleurs déjà fait l'expérience en achetant un téléphone ou une tablette, des contrats signés pour 15 ou 30 euros par mois qui coûtaient finalement jusqu'à 10 fois plus. Et ça continue. Des auditeurs nous contactent régulièrement. Ils réclament un remboursement sans succès. Désespérés, 150 d'entre eux ont manifesté devant le siège à Romans-sur-Isère vendredi dernier. Représentés par l'avocate Emma Leotti, ils ont trouvé porte close.
C'est le peuple qui est descendu dans la rue, qui a demandé des comptes et des remboursements à une société française, qui a préféré prendre la fuite, fermer les portes pour ne pas avoir à affronter le regard de mes clients. Je trouve ça dommage.
Des employés de la SFAM ont été chargés de distribuer un document devant les locaux invitant les clients à envoyer leurs réclamations avec la promesse d'une réponse avant hier soir. Promesse non tenue.
Et ça pourrait bouger aujourd'hui dans cette affaire, Solène?
Oui, parce que la SFAM est assignée devant le tribunal de commerce de Paris par l'URSSAF. L'organisme réclame plus de 11 millions d'euros d'impayés de cotisations en tout genre. Si l'entreprise règle sa dette, pas de conséquences à court terme, dit Emma Leotti. Sinon,
si la SFAM n'arrive pas à payer, le tribunal peut ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Ça pourrait être dramatique pour mes clients. Ça veut dire qu'ils seront payés en tout dernier lieu, derrière l'État, derrière les salariés, derrière les fournisseurs.
Pour assurer ses arrières et les intérêts des 600 clients qu'elle accompagne, l'avocate a engagé des procédures judiciaires contre trois autres entreprises, MMA, Axeria et la FNAC, partenaires commerciaux de la SFAM. Elle évalue le montant total du préjudice de ses clients à plus de 3 millions d'euros.
Et les clients, justement, Solène, qu'est-ce qu'ils peuvent espérer?
Maître Emma Leotti a déjà obtenu 300 000 euros de remboursement négocié à l'amiable et des actions judiciaires sont en cours. Deux procédures collectives au civil pour récupérer des dommages et intérêts et un procès pénal pour pratique commerciale trompeuse qui doit s'ouvrir en septembre. De son côté, le groupe nous informe qu'il conteste le montant des impayés à l'URSSAF et assure qu'une fois un accord trouvé, il réglera sa dette. On vérifiera tout ça, bien entendu. Depuis deux ans, nous avons aidé une dizaine d'auditeurs et on continue d'insister pour tous les autres.
Et on sait que vous ne les lâcherez pas, ces auditeurs. Vous ne lâchez jamais rien, Solène. Bravo d'ailleurs pour ce travail de longue haleine. On rappelle l'adresse pour vous contacter. Si vous aussi, vous en avez besoin, RMC avec vous, @rmc.fr. 5h21.
RMC, à vous de nous dire.
Dans 24 heures, on annonce une grande pagaille dans tous les aéroports français puisque la grève des contrôleurs aériens s'annonce très suivi. Toutes les organisations syndicales ont appelé à cesser le travail jeudi, Gerline.
Ouais, 3 avions sur 4 annulés à l'aéroport d'Orly, 2 sur 3 pour Charles de Gaulle. 60% des vols qui pourraient être annulés à Toulouse, à Nice, 65% à Marseille, 50% donc un vol sur 2 dans les autres aéroports.
Les syndicats qui se mobilisent contre la réforme de l'organisation du secteur, en réduction du nombre de centres et de tours de contrôle, plus de mobilité, plus de productivité demandée aux contrôleurs aériens, qui estiment, eux, que les mesures compensatoires, notamment en termes de salaire, ne sont pas suffisantes. Pourtant, les syndicats avaient promis, en septembre dernier, de ne pas faire grève d'ici la fin des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques pour des raisons salariales. On vous attend ce matin au 32-16. On vous demande si vous comprenez ce mouvement de grève des contrôleurs aériens ou pas. D'ailleurs, est-ce qu'ils envoient balader la fameuse trêve olympique? Est-ce que vous trouvez ça scandaleux? Et puis, évidemment, racontez-nous, hein, ce que ce mouvement de grève vous met dans l'embarras. Si vous deviez prendre l'avion demain, est-ce que votre vol est maintenu ou pas? Vous êtes chauffeur de taxi, chauffeur de VTC également, ça veut dire beaucoup moins de courses pour vous dans les aéroports. Vous nous appelez au 32-16, laissez vos messages sur l'appli Direct Studio. On va poser la question à Dylan qui nous rejoint au 32-16. Bonjour Dylan.
Oui, bonjour à tous.
Bonjour Dylan.
Vous nous appelez d'où Dylan?
Des Deux-Sèvres.
Des Deux-Sèvres, et qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Je suis agent de sécurité mobile.
D'accord. Cette grève des contrôleurs aériens demain, et également un préavis déposé pour le week-end de l'Ascension, qu'est-ce que vous en pensez déjà? Est-ce que vous aviez des billets d'avion, vous, pour
Non, moi, je prends pas l'avion. Ouais. Je travaille, je suis pas en vacances.
D'accord.
Ça fera du bien à la planète.
Ouais, vous essayez de voir le positif.
Ouais, voilà.
Ouais, enfin, une journée avec un peu moins d'avion, ça changera pas grand-chose, hein, quand même.
Oui, mais bon. Après, on a l'habitude, hein, la SNCF, un coup, c'est l'avion.
Mais vous comprenez pourquoi ils font grève?
C'est pour des questions de salaire encore.
Oui, c'est ça. Ils demandent des compensations salariales à une réorganisation du secteur, et donc ils veulent que les salaires augmentent. Est-ce que vous comprenez, quand on parle de contrôleurs aériens, on parle d'une catégorie sociale qui gagne plutôt bien sa vie?
Oui, enfin, ils n'ont pas la pression que certaines professions ont aussi.
Oui, ils ont plus de pression.
Voilà.
Donc vous comprenez, vous, ce mouvement?
Voilà.
Mais ils avaient dit qu'ils ne feraient pas grève, pourtant. Ils l'avaient dit en septembre dernier, ils avaient dit on ne fera pas grève pour des raisons salariales. Là, ils le font, ils avaient dit qu'ils ne le feraient pas jusqu'à la fin des Jeux Olympiques.
Oui, mais ça c'est typiquement français, et ils sont comme le gouvernement, ils disent quelque chose et ils ne le font pas.
Bon.
On est habitué. Hein.
Est-ce que vous partagez l'avis de Dylan? Venez nous le dire au 32-16, hein, le débat continue. Merci beaucoup Dylan de nous avoir appelé ce matin.
Merci,
bonne journée dans les Deux-Sèvres. On continue, hein, je vous le disais, le débat au 32-16 ce matin. Est-ce que vous comprenez ce mouvement de grève? Appelez-nous, hein, notamment si vous avez des billets pour demain ou pour le pont de l'Ascension. Vous nous appelez au 32-16. Est-ce que vous comprenez cette grève des contrôleurs aériens? 32-16 et Direct Studio sur l'appli RMC.
RMC, Charles Matin.
Dans un instant, sur RMC, journal de 5h30, avec à la une les dernières infos sur l'enquête après la blessure par balle du chanteur Kenji Girac. Toute la bande nous rejoindra ensuite, toute la bande de Charles Matin, la story sport d'Alex Biggerstaff, avec une info RMC Sport. Tiens, Olivier Giroud qui va vivre son rêve américain la saison prochaine. Anthony Morel, lui, nous emmène aux toilettes, pas n'importe lesquelles. On verra ça, ne ratez pas ce rendez-vous. Et puis tout de suite, Géraldine, c'est ta solution conso.
Ouais, je m'occupe de votre garde-robe ce matin.
RMC, 5h-6h30, Charles Matin, Martin Bourdin.
RMC 5h26.
RMC,
la solution conso.
Les bons plans de Géraldine Demory, comme tous les matins à cette heure-là. Ce matin, Géraldine, tu fais le ménage dans notre garde-robe.
Ouais, tiens, est-ce que tu sais combien tu as de vêtements chez toi, à peu près?
Moins que ma femme, mais je sais pas, non.
Plus que 9?
Oui, quand même.
Eh ben alors, du coup, t'en as trop. Je suis sûre que tu peux te débarrasser de quelques-uns.
Il faut les laver quand même.
En tout cas, ne pas en racheter. Ah oui, quand même. je conseille. Alors, en tout cas, c'est l'idée d'un nouveau défi qui cartonne sur TikTok, le défi 3-3-3. L'idée, c'est que 9 pièces bien choisies suffisent. 3 hauts, 3 bas, 3 paires de chaussures, le tout adapté à toutes les saisons. Et il n'y a pas besoin de plus. C'est une influenceuse canadienne qui a lancé le mouvement. Et avec ses quelques vêtements, elle est arrivée quand même à créer 23 looks différents. Alors, notamment en transformant une veste en robe ou encore une jupe en crop top. En tout cas, largement de quoi tenir quelques semaines sans avoir l'impression d'être habillé pareil tous les jours.
C'est économique, c'est écologique également.
Bah oui, parce qu'on a beaucoup parlé, hein, de la surconsommation avec la fast fashion, ultra polluante. Là, l'idée, c'est plutôt le minimalisme et surtout changer notre regard sur notre manière de consommer. Alors, pour que le challenge des 3-3-3 fonctionne sur le long terme, il faut choisir des vêtements intemporels qu'on va avoir plaisir à porter pendant des années, pas seulement pendant 15 jours. Dans la même idée, il faut privilégier des vêtements de qualité, 100% coton, 100% lin, Alors, pour avoir une idée de la qualité, regardez la transparence. Si on voit à travers le t-shirt, clairement, c'est pas bon signe. Au contraire, un tissu épais est plutôt un bon indicateur. Alors, c'est vrai que ce sont des vêtements qui vont être plus chers à l'achat, mais on peut les garder plus longtemps. Et comme on achète moins, bah, ça reste quand même économique. Quand on sait qu'un Français ne porte en moyenne que 30% des vêtements qu'il possède, ça fait réfléchir. 7 vêtements sur 10 hein, qui prennent la poussière sans servir. Et pourtant, ça ne nous empêche pas d'en racheter, de se plaindre qu'on n'a rien à se mettre.
C'est toujours comme ça. Et ça, je pense que du coup, j'ai peut-être passé un peu de temps aujourd'hui à regarder dans ma garde-robe. Cette mode du minimalisme, elle n'est pas nouvelle, Géraldine.
Maintenant, tu te souviens de Marie Kondo. Oui. Son credo, c'était que pour être heureux, il faut faire du tri chez soi. Ça concerne les vêtements comme les objets. L'idée, c'est de se débarrasser de tout ce qui ne nous procure pas du plaisir, de la joie. Plusieurs études d'ailleurs montrent que posséder moins rend moins stressé, tout simplement parce que trop de choix épuise le cerveau. Ça s'appelle la fatigue décisionnelle. C'est un vrai truc. Donc, pour notre bien, comme pour notre portefeuille, bah, il est grand temps de moins acheter. En tout cas.
Vous allez vous libérer de l'espace dans le cerveau pour d'autres choses peut-être plus importantes que votre manière de vous habiller. Les bons conseils conso, comme tous les matins, de Géraldine Demorigue, vous pouvez retrouver évidemment en podcast sur rmc.fr et sur l'appli RMC.
Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, partenaire premium de Paris 2024.
C'est le meilleur d'Arnaud Demanche, tout de suite sur RMC. Arnaud qui revient sur ce match caritatif du Variété Club de France auquel participe aujourd'hui Emmanuel Macron. Match qui sera sans doute débriefé dans l'after version Demanche.
Salut Daniel, pour parler de ce match avec Emmanuel Macron sur le terrain, Daniel, au profit des pièces jaunes, Daniel.
Oui, mais moi je me méfierais hein, si j'étais les gosses à l'hôpital. À mon avis, Macron il va se barrer avec la billetterie. Hein. Quand t'as 20 milliards de déficit, un sou est un sou, quoi.
Oh Daniel, tu peux pas dire ça, Daniel. C'est un match de solidarité quand même. Tout le monde va tirer dans le même sens, c'est les pièces jaunes. En plus, on sait que les Français adorent l'opération pièces jaunes et ils donnent beaucoup.
Ouais, c'est sûr, hein, ils peuvent donner des pièces jaunes, les Français, ils ont plus que ça. Ce serait l'opération billet violet, ça marcherait moins bien. Hein.
Oh Daniel, enfin arrête à la fin.
Arnaud Demange, qu'on retrouvera tout à l'heure évidemment en direct, comme tous les jours, à 7h20 et 8h20, avec Sébastien Krebs dans Apolline Matin.
RMC, Charles Matin.
À 5h30, toute l'info, c'est avec Thomas Schnell. Bonjour Thomas.
Bonjour Martin, bonjour à tous. Kenji Girac va mieux, mais l'enquête se poursuit. Le chanteur blessé par balle n'a toujours pas pu être entendu. C'était attendu, ça se confirme. Journée noire en perspective demain dans les aéroports. 75% des vols annulés à Orly, 65% à Marseille et Roissy, 60% à Nice et Toulouse. Et puis de 55 à une quinzaine de lignes, Bruno Le Maire veut simplifier le bulletin de paix.
Le chanteur Kenji Girac, toujours hospitalisé à Bordeaux.
Mais il est tiré d'affaire, assure son manager. Maintenant, l'artiste doit expliquer aux enquêteurs comment il a reçu une balle en pleine poitrine. Dans la nuit de dimanche à lundi, sur une aire d'accueil des gens du voyage dans les Landes, les circonstances restent floues. Le chanteur assure qu'il s'agit d'un accident domestique avec une arme qu'il venait d'acheter dans une brocante. Pierre Bourgès, les enquêteurs poursuivent leur enquête.
Oui, les enquêteurs ont pu auditionner la femme, la tante et l'oncle de Kenji Girac. Ils indiquent bien qu'il se serait fait cette blessure seul. D'après les témoignages, le soir de l'incident, le chanteur et sa femme seraient rentrés du casino vers 3h du matin. C'est quelques minutes plus tard qu'un coup de feu a blessé l'homme au niveau du poumon et de l'intestin. Kenji Girac n'est pour le moment pas en état d'être auditionné, mais il reste encore des zones d'ombre pour les enquêteurs. Pourquoi avait-il cette arme avec lui? Qu'est-ce qu'il voulait en faire? Pour le moment, il y a encore beaucoup d'incompréhension du côté des proches de Kenji Girac. Admet Alban Travia, son co-manager. C'est en partie pour cette raison que la communauté des gens du voyage souhaite rester silencieuse pour l'instant.
Le maire Horizon de Nice, Christian Estrosi, va mettre en place un couvre-feu pour les enfants de moins de 13 ans à partir du 1er mai pour toute la période estivale. La mesure s'appliquera de 23h à 6h du matin. Elle avait déjà été mise en place dans la ville avant 2020. Je prends mes responsabilités, assume l'élu.
5h32, cette question ce matin, la dengue risque-t-elle de se répandre en France cet été?
C'est ce que redoute la Direction Générale de la Santé. Les autorités ont identifié plus de 1679 cas importés de cette grippe tropicale. C'est 13 fois plus que l'année dernière à la même période, ce qui inquiète beaucoup les autorités sanitaires à l'approche de l'été et surtout des Jeux Olympiques. Caroline Philippe.
Des cas importés pour l'instant, mais les autorités sanitaires craignent que les cas contractés sur le territoire explosent rapidement. Car l'été, avec la chaleur, les moustiques-tigres, ceux qui transmettent la dengue prolifèrent. Et cet été, les Jeux Olympiques risquent d'entraîner en plus un brassage de population et donc de cas de dengue.
C'est une maladie qui est potentiellement grave. C'est une grippe en pire.
Jean-Paul Stahl, professeur émérite de maladies infectieuses à l'université de Grenoble, rappelle donc l'intérêt de renforcer la lutte anti-moustiques.
Ça commence avec l'identification des cas, pour qu'on puisse mettre en place autour les mesures de démoustication. Et puis, de façon plus générale, c'est éviter les sources de multiplication des moustiques, les eaux stagnantes, ce genre de choses.
Autre mesure préventive, les agences régionales de santé devraient démarrer la campagne de démoustification début mai, plutôt que d'habitude.
Les risques de dengue en France, on en parlera tout à l'heure. Un hôtel rendez-vous à 6h10 avec le docteur Harold Noël sur RMC, RMC Story. Harold Noël, c'est le monsieur maladies infectieuses à Santé publique France.
Il dénonce un événement sans précédent dans notre démocratie. Jean-Luc Mélenchon fustige la convocation par la police de Mathilde Panot. La chef de file des députés insoumis à l'Assemblée nationale est accusée d'apologie du terrorisme après un communiqué du groupe parlementaire le 7 octobre dernier, qualifiant les attaques du Hamas, je cite, d'offensives armées des forces palestiniennes. Indigné également le Rassemblement national après une plainte contre le numéro 3 de sa liste aux européennes. Fabrice Leggeri est visé pour complicité de crimes contre l'humanité et de torture. Il lui est reproché des décisions prises lorsqu'il était directeur exécutif de Frontex.
La grève des contrôleurs aériens prévue demain conduira à des annulations de vols en pagaille un peu partout en France.
La profession conteste la refonte du contrôle aérien et réclame des hausses de salaire jusqu'à 25% et la menace d'une grève plane aussi sur le pont de l'Ascension les 9, 10 et 11 mai. Le mouvement demain sera très suivi, Nicolas Traîneau.
Oui, l'aéroport le plus fréquenté, Paris-Charles de Gaulle, tournera au ralenti. Seulement un avion sur trois décollera, comme à Marseille. Mais c'est à Paris-Orly que le mouvement social causera le plus de turbulences. Les trois quarts des vols ne seront pas assurés. De manière générale, il faut s'attendre à au moins 50% d'annulation dans chaque aéroport, indique la Direction Générale de l'Aviation Civile, avec une dernière exception, 60% de suppression à Nice et Toulouse-Blagnac. Les passagers concernés ont la possibilité de se faire rembourser. En revanche, aucune indemnisation n'est possible. Le versement de 250 à 600 euros prévu par le règlement européen en cas de grève ne s'applique pas dans le cas d'une grève des contrôleurs aériens. Aucune compensation n'est prévue par la loi pour les nuits d'hôtel ou les locations de voitures perdues. C'est aux voyageurs d'envoyer des réclamations ou de faire jouer les assurances liées à la carte bancaire.
Vous avez entendu les prévisions de trafic dont vous parlez, Nicolas. Trois quarts des vols annulés à Orly, deux tiers à Roissy-Charles de Gaulle, à Marseille, pareil à Toulouse, à Nice, un vol sur deux quasiment dans tous les autres aéroports de France. Un préavis de grève également déposé pour le pont de l'Ascension, 9, 10 et 11 mai prochain, alors que les contrôleurs aériens avaient dit qu'ils ne feraient pas grève pour des raisons salariales jusqu'à la fin de la séquence olympique en septembre prochain. Qu'est-ce que vous pensez de cette grève? Est-ce qu'elle est scandaleuse? Comment vous réagissez quand vous entendez tout ça? Je ne sais pas si vous aviez des billets d'avion pour demain. Appelez-nous au 3216, nous dire un peu comment ça se passe pour vous ce matin, comment on gère la situation. J'imagine que ça engendre un peu de stress. On attend aussi également les taxis, les VTC. On imagine que ça va faire un peu moins de courses depuis les aéroports. Et puis évidemment, si vous êtes contrôleur aérien, venez vous défendre ce matin sur RMC. Vous avez la parole, vous venez vous expliquer pourquoi il faut faire grève demain, pourquoi les contrôleurs aériens font grève demain. Vous nous appelez au 3216 et sur l'appli RMC, vous laissez vos messages dans la rubrique Direct Studio.
La simplification du quotidien des entreprises sur la table du Conseil des ministres. Ce matin, Bruno Le Maire promet moins de lourdeur administrative et une nouvelle version du bulletin de paie qui passerait de 55 à 15 lignes.
L'objectif de la loi, c'est simplifier la vie des chefs d'entreprise. Mais ça doit aussi inclure les salariés. Aujourd'hui, vous avez une feuille de paie, elle a 55 lignes, parfois plus, parfois un peu moins. Elle est illisible. Nous voulons une feuille de paye qui fasse une quinzaine de lignes, qui soit claire, simple, lisible pour le salarié, où il voit ce que paye le chef d'entreprise, ce que lui touche, ce qu'il paye comme cotisation sociale, ce qu'il paye comme impôt et ce qui lui reste à la fin du mois. Cette transparence, elle est gage d'économie aussi pour les chefs d'entreprise et pour les salariés, une fois encore, c'est de la confiance et de la lisibilité.
Aux États-Unis, adoption sans surprise cette nuit au Sénat du plan d'aide massif de 61 milliards de dollars pour l'Ukraine. L'enveloppe déjà votée par la Chambre des représentants ce week-end après des mois de blocage. Les travaux du site olympique de Versailles ont été momentanément interrompus. L'inspection du travail avait constaté des dangers graves de chute de hauteur pour les salariés sur place, mais Edgar Grolot, tout est rapidement revenu dans l'ordre.
Oui, les travaux ont pu reprendre sur le site olympique de Versailles. Un stade temporaire de 16 300 places est en train d'y être construit pour accueillir l'équitation et le pentathlon moderne. C'est la sécurité des salariés chargés de monter ces gradins qui a inquiété l'inspection du travail. Le tribunal administratif assure notamment qu'aucun élément concernant la solidité des harnais n'a été apporté par la société chargée des travaux JL Evans. Selon Paris 2024, seules des modifications mineures ont dû avoir lieu pour permettre la reprise des travaux. Le calendrier de livraison des infrastructures n'a pas été été impactée. D'après l'organisateur, l'inspection du travail avait également interrompu une partie du chantier du site olympique de la Concorde avant que les travaux ne puissent, là aussi, reprendre normalement.
À 5h38, on reste dans le monde du cheval, hein, puisque c'est à Versailles que vont se tenir les épreuves d'équitation cet été pendant les JO. Là, cette fois, on parle du quintet qui se déroule sur l'hippodrome de Cordemais cet après-midi.
À 13h55, et le pronostic de la Dream Team RMC, le favori numéro 5, Y de Ceylan, l'outsider, le 2, Gold Star, le 5. Et le 2, les courses, c'est à vivre en direct sur RMC Découverte.
Merci beaucoup Thomas Schnell pour ce point complet sur l'info. 5h39 sur RMC, Géraldine, le débat qui se poursuit sur Direct Studio ce matin, on vous demande ce que vous pensez de la grève des contrôleurs aériens qui va paralyser le trafic demain dans tous les aéroports français.
Oui, ça vous fait sacrément réagir. Tiens, on a Titi qui nous dit qu'il est chauffeur routier. Nous aussi, on a des responsabilités, mais on ne gagne pas 4000 euros par mois et on ne fait pas grève. Bernard qui nous explique que son fils doit partir, tiens, demain avec Air France, et il n'y a pas d'infos. C'est ça, ils trouvent dégueulasse hein, qu'ils fassent grève et que les voyageurs ne soient pas informés dès que possible pour pouvoir au moins se retourner. Stéphane ne comprend pas cette grève. Oui, ils ont des pressions, mais comme dans tous les métiers, c'est dur physiquement, psychologiquement. On a tous des pressions avec des taux de rendement à produire et on n'a pas tous un gros salaire. David est un peu plus nuancé. Augmentation de salaire, une grève pour ça, pourquoi pas. Mais attention, les contrôleurs du ciel ont peut-être raison. Attention aux messages qu'ils envoient. Ils se font passer pour des privilégiés à tort ou à raison.
Appelez-nous ce matin pour dire ce que vous aussi vous pensez de cette grève-là. Vous faites le 32-16, vous laissez vos messages sur l'appli RMC, rubrique Direct Studio.
RMC, Charles Matin, êtes-vous bien réveillé ?
Et on vous a donné de gros indices pour répondre à la question du jour, Géraldine Demorier.
Tiens, quelle profession du secteur aérien sera en grève demain ?
On vient d'en parler de cette question-là. Vous avez donc forcément entendu la réponse. Si vous l'avez retenue, si vous êtes bien réveillé, vous envoyez le mot « actu » par SMS au 7-32-16. « Actu » par SMS au 7-32-16 pour tenter d'être tiré au sort et de gagner un joli cadeau.
Un super radio-réveil de la marque Muse pour vous réveiller avec RMC et écouter Charles Matin dès le réveil.
Évidemment, quelle profession du secteur aérien sera en grève demain, vous avez la réponse. Vous envoyez actu par SMS au 7-32-16. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi. Les indiscrets RMC.
Les indiscrets tous les jours, les coulisses de l'actualité. Ce matin, c'est Romain Cluzel du service police, du service politique des RMC qui nous y emmène. Bonjour Romain.
Bonjour Martin, bonjour Géraldine.
Bonjour.
Romain, François Fillon sera fixé sur son sort aujourd'hui. La Cour de cassation rend son verdict dans l'affaire des emplois fictifs. Vous vous souvenez, le fameux Penelope Gate, c'était en pleine campagne présidentielle de 2017. Et 7 ans plus tard, Romain, François Fillon reste très discret.
Et signe de cette grande discrétion, François Fillon ne laisse quasiment rien filtrer de sa nouvelle vie. Son cabinet de conseil, basé à Paris, est toujours en activité, mais ses prises de parole en public se comptent sur les doigts d'une main. La dernière date de novembre dernier, via l'association de soutien aux chrétiens d'Orient qu'il préside. À 70 ans, l'ancien Premier ministre voyage beaucoup, selon un de ses proches, mais reste très éloigné de la politique française. François Fillon a bien encore quelques contacts, par exemple avec son ancien ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, ou son ami de longue date, Bruno Retailleau, mais aussi Laurent Wauquiez qui aspire à être candidat en 2027. Avec eux, il parle d'actualité, de politique, sans aucune intention de revenir dans la sphère publique. Parce que 7 ans après, la cicatrice de cette campagne présidentielle dantesque reste vive. Dans son fief de Sablé-sur-Sarthe, le nouveau maire s'est fixé une règle, ne pas dire un mot concernant François Fillon. Et au sein de son ancienne famille politique, la rancune est tenace. Lorsqu'on évoque le nom de François Fillon, un ancien cadre de l'UMP nous répond « crapule ». Un autre parle de « serial killer » en référence à ces dizaines de députés de droite qui ont perdu leur siège en 2017. Mais ses défenseurs insistent, François Fillon reste le dernier candidat de droite à avoir obtenu 20% des voix à la présidentielle, avec un programme de lutte contre la dette et contre l'islamisme radical. Selon eux, il faut s'en inspirer pour que la droite rassemble à nouveau largement.
Un discret signé Romain Cluzel, ce matin reporter du service politique d'RMC.
RMC, Charles Matin.
La petite musique qui vous signale que tout de suite, c'est toute la bande de Charles Matin qui arrive. Ils sont tous là, en studio. Alex Biggerstaff pour la Story Sport. Salut Alex.
Salut tout le monde, comme Youri Djorkaeff, Thierry Henry, Blaise Matuidi ou encore Hugo Lloris. Un autre Français va faire sa fin de carrière. Un rêve américain.
Anthony Morel est également présent pour C'est déjà demain.
Salut tout le monde, on va parler des toilettes du futur. Ben oui, c'est un vrai sujet, les toilettes du futur qui seront auto-nettoyantes. J'ai hâte
d'entendre ça. Ouais,
ça peut soulager certaines personnes. Et puis comme tous les jours, on aura ton bonus, Géraldine.
Ben on est mercredi, c'est jour de sortie au ciné. Je vous parle d'un film sur une incroyable chanteuse.
Petite
Suspense qui sort aujourd'hui. Donc ce film, tu nous dis tout dans un instant. Et puis Jackie nous rejoint au 32-16 pour discuter de tout ça. Il s'installe autour de la table avec nous. Vous aussi, appelez-nous au 32-16. On parle de tout ça ensemble dans un instant.
RMC, Charles Matin.
5h44 sur RMC, toute la bande est là. Alex Biggerstaff qui nous parle du rêve américain d'un international français. On va garder un peu le suspense. Anthony Morel qui monte sur le trône. Tiens, Anthony Morel,
oui,
dans un instant.
Tout va bien.
Qui va chanter Amy Winehouse dans le bonus. Mais d'abord, Jackie qui nous rejoint au 32-16. Bonjour Jackie.
Ouais, bonjour à vous, bonjour à toute l'équipe, bonjour à Martin, bonjour à Géraldine.
Salut Jackie. Vous êtes en forme Jackie ce matin, ça fait plaisir à entendre.
Ah oui. Bah, ça fait un bout de temps que je n'avais pas appelé, effectivement.
Eh bien, vous faites bien d'appeler ce matin depuis Nantes, Jackie. Ça nous fait plaisir de vous entendre. Avant de donner la parole à Anthony, Jackie, je voulais vous poser la question sur notre débat du jour. Cette grève des contrôleurs aériens qui va paralyser le trafic dans les aéroports français demain, alors qu'ils avaient promis qu'ils ne feraient pas grève jusqu'à la fin de la séquence olympique. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce qu'ils ont raison de faire grève les contrôleurs aériens demain ?
Alors, eux, ils ont menti, c'est vrai. Ils ont promis qu'ils n'allaient pas faire grève. Mais qui est le premier menteur dans l'histoire ? C'est quand même le gouvernement qui, lui, n'a pas tenu ses promesses.
À quel sujet ?
Bah, justement, au niveau des augmentations de salaire et autres.
Oui,
de ces personnes-là. Non, il n'a pas tenu ses promesses. Oui. Le souci, on vit dans un pays d'individualisme. Je m'explique, moi aussi je devais partir. Mais je suis entièrement solidaire avec les aiguilleurs du ciel.
Vous deviez prendre l'avion demain ?
Non, pas demain.
Pas demain, d'accord. Mais vous deviez partir quand ? Vous deviez partir quand ?
La semaine prochaine.
La semaine prochaine. Et en avion, du coup, alors a priori, la semaine prochaine, il n'y aura pas de problème. En tout cas, pour le moment, il n'y a pas de préavis de grève. Ce sera pour le week-end d'après. Mais en tout cas, vous êtes d'accord avec eux. Vous dites qu'ils ont raison de se mobiliser.
Mais bien sûr, on vit. Regardez, divisé comme mieux régné, je m'explique. Regardez les aiguilleurs du ciel, ils vous empêchent de partir en vacances. D'une. Regardez, si quand c'est les médecins, les infirmiers, tout ça, regardez, on refuse de vous soigner. Si vous voulez, on divise le murignier. Au lieu que tous les mécontents, les gens qui sont mécontents aujourd'hui, fédèrent ces mouvements. Parce que ils ont tous la même racine, ces mouvements.
Ouais. En fait, tout le monde ne peut pas faire grève non plus. Hein. Il y a des secteurs, quand même, c'est plus compliqué.
Oui, mais regardez, y compris dans le mien, moi j'ai 72 ans, je suis porteur de presse, j'ai 600 euros de retraite. Vous croyez que je pourrais vivre avec 600 euros ? La réponse... Moi je me plains pas, mais je comprends ces mouvements, je comprends.
Parce et que, si votre avion recule... est annulé, ça vous fera rien ?
Non, parce que je les comprends.
D'accord, en tout cas,
il faut être solidaire, il suffit pas de... Il faut être solidaire les uns des autres, et que c'est comme ça, en nous divisant, que M. Macron et sa clique, excusez-moi, trouvent des failles.
En tout cas, c'est votre avis, le débat continue, évidemment, ce matin sur RMC, au 32-16, sur Direct Studio, appelez-nous pour réagir à cette grève des contrôleurs aériens. Toute la matinée, évidemment, le débat continue, même tout à l'heure dans Apolline Matin avec Sébastien Krebs, vous nous appelez le 32-16 et l'appli RMC, rubrique Direct Studio. Jackie, je vais donner la parole à Anthony, qui nous parle d'une innovation aujourd'hui qui peut sembler anodine, quoique, elle va quand même nous changer la vie, cette innovation, puisque tu nous parles, Anthony, ce matin, de WC révolutionnaire, beaucoup plus facile à nettoyer. C'est la fin des brosses de toilettes.
Ben oui, c'est ça. Ben oui, l'innovation se niche dans tout, et je dis bien tous les aspects de notre vie. Et pardon de parler de quelque chose d'aussi trivial, mais c'est le genre de petit truc qui peut faire une grosse différence. Des chercheurs chinois ont mis au point une cuvette de toilette anti-adhésive et super glissante à laquelle rien, et je dis bien rien, ne peut s'accrocher. Voilà, je vais pas vous faire un dessin, je pense qu'on a tous compris, disons juste que vous aurez plus jamais besoin de brosse de toilette. C'est très sérieux, ce sont des chercheurs de l'Université des sciences et technologies de Huazhong qui ont publié tout un article dans une très sérieuse revue spécialisée dans la science des matériaux. Ils ont mis au point un nouveau type de matériau constitué de plastique et de grains de sable hydrophobes, et ils ont créé une structure poreuse baignée dans de l'huile de silicone silicone. Sans entrer dans les détails, c'est comme si la surface de votre cuvette de toilette était lubrifiée en permanence. Tout glisse comme l'eau sur les plumes d'un canard. Alors les plus pointus d'entre vous sur les questions sanitaires me feront remarquer qu'il existe déjà des toilettes anti-adhésives, mais leur efficacité diminue de manière significative avec le temps, alors qu'avec ce nouveau matériau, eh bien ça n'est plus le cas. C'est la structure même des toilettes qui est anti-adhésive. Ça peut sembler gadget, mais pas du tout. Il y a un vrai enjeu derrière, enjeu de propreté évidemment, gain de temps pour laver les toilettes d'entreprise par exemple, et aussi en limitant l'usage de la chasse d'eau après nettoyage. 9 litres d'économiser à chaque fois, c'est pas rien.
Ah, le gain écologique, je l'avais pas vu venir.
Mais bien sûr,
autant le gain de temps, je le voyais à peu près, mais le gain écologique.
C'est pas juste du gadget en fait. Il y a un vrai enjeu derrière.
C'est mieux même que quand on nettoie tout seul.
Oui, voilà. Il y a un côté pratique aussi qui est assez évident.
Simple, évidemment. Ces toilettes, c'est un exemple, mais en fait, c'est le nouveau matériau auquel rien n'adhère. C'est une révolution qui va bien au-delà des toilettes.
Oui, ça pourrait notamment permettre de lutter contre le gaspillage alimentaire. Ben oui, récupérer le ketchup ou le dentifrice qui reste collé au fond du tube. Il y a énormément de déperditions de produits parce qu'on va pas jusqu'au bout. Ben, vous savez bien, le tube de ketchup, là. Ben oui, vous avez votre plat de coquillettes, vous tapez, il y a rien qui sort. Mais pourtant, vous voyez bien qu'il en reste au fond. Ben oui. Et ben là aussi, on va pouvoir utiliser le même genre de technologie. On va l'intégrer dans des contenants alimentaires et on va se retrouver avec une bouteille de ketchup ou de moutarde, enfin peu importe, qui va laisser filer son contenu jusqu'à la dernière goutte. Quand on tourne la bouteille, son contenu glisse presque comme de l'eau qui coule d'une bouteille. Énorme enjeu là encore, hein, selon une étude américaine, 15% des tubes de moutarde, de ketchup ou de lotion pour la peau sont jetés à la poubelle, sans parler de la peinture qui se solidifie au fond du pont, de la super glue, du tube de dentifrice, etc. etc. Donc beaucoup d'applications et ça pourrait nous permettre encore une fois de mieux lutter contre le gaspillage.
Bon Jackie, des toilettes anti-adhésives, ce serait quand même pas mal, non ?
Ouais, bah tout ce qui va dans le bon sens, pourquoi pas, quoi. Ouais. Bon, hein. Sauf que le gars, bon, il s'est creusé la tête pour trouver... Pour nous simplifier la vie, c'est ça.
C'est vrai que ça laisse son genre à l'expédition.
Il n'y a pas de petites innovations.
Ah non, j'écoute à chaque fois Anthony.
Religieusement. Oui, Jackie.
C'est plus la cabane au fond du jardin, quoi.
On est sur une cabane d'un niveau supérieur, effectivement. Alex Biggerstaff, ta story sport ce matin, c'est une info, RMC, un accord a été trouvé entre le club américain de Los Angeles et un international français qui s'appelle Olivier Giroud, qui évolue actuellement au Milan AC, qui est en fin de contrat et qui va donc poursuivre sa carrière aux États-Unis.
Oui, il va signer pour un an et demi en option supplémentaire et va rejoindre Hugo Lloris, son ancien coéquipier en bleu, au sein du Los Angeles Football Club en MLS, le championnat américain. Quelle trajectoire, quelle carrière, quelle vie quand même. 57 buts en 131 sélections avec l'équipe de France, meilleur buteur de l'histoire des Bleus à ce jour. Il a offert un titre de champion de France inattendu à Montpellier en 2012, au début de l'ère qatari du PSG. Il a joué pour les plus grands clubs du monde, Arsenal, Chelsea, l'AC Milan. Il a remporté une Coupe du Monde, une Ligue des Champions, une Ligue Europa, tout en inscrivant des buts légendaires.
Et c'est devenu une légende, Olivier Giroud, alors qu'au départ, c'est surtout un gamin qui ne perce pas à Grenoble, sans doute au mauvais endroit, au mauvais moment.
Et en 2008, Tours l'achète pour la modeste somme de 150 000 euros, l'affaire du siècle, 38 buts en 69 matchs, puis il rejoint Montpellier, et la suite, vous la connaissez. L'ancien défenseur Damien Perquis résumait bien la carrière de Giroud dans l'after hier soir.
C'est un joueur qui est atypique, qui arrive des bas-fonds du football amateur et puis finalement qui se crée sa carrière lui-même avec à force de travail et d'abnégation.
Et oui, en gros, il est le rêve américain. Il l'incarne à merveille. Ce n'est que logique de le voir signer en fin de carrière aux États-Unis. Alors, avec cette signature, l'idée, si elle existait, de faire les JO cet été n'est plus d'actualité. Pas grave pour Daniel Riolo qui valide ce choix.
On vient de pas me dire, il me fait une croix sur les JO. D'abord, rien ne dit qu'il aura été sélectionné pour les JO. Et puis, à partir du moment où c'est un choix de vie, où j'imagine il part avec toute sa famille, il a gagné tous les titres qu'il pouvait gagner. Au revoir tout le monde. Il sort par la grande porte. Moi, j'adore ce choix. Je trouve que c'est formidable.
Et peut-être que celui qui était surnommé Chaussette quand il était petit, en référence au loup solitaire dans le film Danse avec les loups, aura désormais Kevin Costner comme voisin à Hollywood. D'ailleurs, il s'est déjà orienté un peu vers le cinéma. Il avait joué en 2021, Olivier Giroud, dans le film Haters, et avait aussi prêté sa voix au bouffon vert dans Spider-Man New Generation en 2018. Et en tout cas, on imagine déjà son message d'adieu à la fin de la saison.
Les amis, je dois m'en aller. Je n'ai plus qu'à jeter mes clés.
Olivier Giroud qui file donc aux États-Unis. Carrière exceptionnelle hein, d'Olivier Giroud. Jackie, ça vous fait quoi de le voir partir aux États-Unis ?
Oh non.
C'est une bonne fin de saison pour. C'est une bonne fin de carrière pour lui. C'est un bon projet.
Ouais, bah oui. Mais les footballeurs, ils ont entièrement raison. Hein. Là où ils peuvent gratter quelque chose, c'est ça de mettre de
temps
privé.
C'est le Giro de la fortune,
quoi,
bon. Jacques. Le jeu de
mots. Bah oui.
Allez, en tout cas, Olivier Giroud, qui va donc prendre la direction des États-Unis à la fin de la saison, après une carrière bien remplie. Autre carrière bien remplie, celle de Géraldine Demory, mais c'est pas de ça dont je veux parler, désolé Géraldine.
C'est fini quand même encore.
Non, non plus, mais déjà bien remplie quand même. Tu nous parles aujourd'hui du biopic sur Amy Winehouse qui sort en salle.
L'histoire de cette voix hein, vraiment très particulière qui est racontée dans un film. 13 ans après la mort d'Amy Winehouse, bah oui, 13 ans déjà, hein, elle avait seulement 27 ans, après une overdose. Le film s'appelle Back to Black, comme le deuxième album de la chanteuse britannique. Ah, évidemment, c'est pas un hasard, puisque le film se concentre sur la sortie justement de ce disque-là, grâce auquel Amy Winehouse a remporté 5 Grammy Awards. Alors on va se concentrer sur ce qui a inspiré la chanteuse quand elle a écrit ce disque, notamment sur une histoire d'amour destructrice, un destin tragique entre amour, musique, addiction, interprétée par Marissa Abella. La performance est saluée par tous les spécialistes. Bon, j'avoue que j'ai quand même vraiment hâte de le voir, ce film. En tout cas, la ressemblance entre l'actrice et la chanteuse est frappante. Alors, il y a le look pin-up, hein, bien sûr, avec le large trait d'eyeliner, hein, qui a vraiment fait...
La
renommée d'Amy Winehouse. Et vous pourrez découvrir donc ça dès aujourd'hui dans Back to Black au cinéma.
J'écris pas des chansons pour être célèbre. J'écris des chansons parce que... Je veux transformer le mal en bien.
Au cinéma.
Bon, ouais, on était en train de regarder avec Alex Marissa Abella, parce que je connaissais pas, donc en Amy Winehouse. Ouais, je trouve ça assez convaincant. Moi,
le look dans la photo, c'est assez impressionnant. Moi, je trouve que l'actrice lui ressemble pas tant que ça.
Non,
en fait.
Mais dans le film, elle lui ressemble comme nous.
Ouais, c'est ça, parce que je voyais les photos.
Oui, mais dans le film, j'ai vu la bonne annonce. Mais par contre, je sais pas si c'est elle, si c'est l'actrice qui chante. Elle-même.
Alors, je crois qu'elle a fait des. Il y a des scènes où c'est elle qui chante, tout à fait. Et
pareil, dans ces cas-là, je valide totalement exactement. Le fait que c'est l'actrice chante ouais. Elle-même.
Et
ça rend le
biopic
encore plus dingue.
Sacré bois.
Non, c'est un sacré film, et c'est vrai que ça donne envie d'aller le voir, ce film, ce biopic donc sur Amy Winehouse qui sort aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous, Alex, Anthony. Merci également à Jackie de nous avoir appelé au 32-16. Bonne journée du côté de la Loire-Atlantique. Jackie, et à bientôt au 32-16. Géraldine, on te retrouve dans un instant sur RMC, RMC Story pour la météo. Il y aura aussi le journal qui arrive tout de suite.
Bon réveil à tous sur RMC, il est 6h.
RMC, Charles Matin.
Et Quentin Vinet est là pour le journal. Bonjour Quentin.
Bonjour Martin, bonjour à tous. Bientôt, des fiches de paye plus simples, plus faciles à comprendre. Le gouvernement va dévoiler son projet de loi ce matin sur la simplification administrative. On va passer de 55 à 15 lignes sur les bulletins de salaire. Kenji Girac, tiré d'affaire, selon son manager, toujours hospitalisé à Bordeaux. L'enquête se poursuit 48 heures après sa blessure par balle. Et l'information de la nuit, les États-Unis qui, ça y est, valident l'aide très attendue de 61 milliards d'euros, très attendue depuis des mois par l'Ukraine.
On y verra donc bientôt plus clair sur nos feuilles de paie.
Oui, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, présentera ce matin un projet de loi sur la simplification administrative, la fameuse bureaucratie à la française. Simplification qui va commencer, il était temps, par le bulletin de salaire, Romain Cluzel.
Et le ministre de l'économie affiche son ambition. Bruno Le Maire souhaite passer de 55 lignes en moyenne sur un bulletin de salaire à une quinzaine. Une manière de rendre les feuilles de paye plus lisibles et surtout plus compréhensibles. Alors comment l'exécutif compte-t-il s'y prendre ? Eh bien en regroupant de nombreuses lignes. Par exemple, le détail des cotisations patronales et des cotisations salariales. Il n'y aurait plus qu'un seul montant indiqué pour chaque catégorie au lieu du détail. Bruno Le Maire l'assure, l'entreprise aura toujours accès à ce détail des cotisations et un salarié pourra en prendre connaissance s'il le souhaite. Reste à confirmer cette simplification, d'abord au Parlement, puis dans les entreprises, parce que ce n'est pas la première fois que le gouvernement tente de réduire le nombre d'informations sur les fiches de paye. On compte 5 tentatives sur les 25 dernières années, jusqu'ici sans succès.
Les 3/4 des avions seront annulés demain avec la grève qui est annoncée, hein, des contrôleurs aériens, mouvement qui porte notamment sur les salaires. Il y aura 75% des vols annulés à Orly, 65% à Charles de Gaulle et Marseille, 60% à Nice et Toulouse, la moitié dans les autres aéroports, et un préavis qui est déjà déposé pour le pont de l'Ascension début mai.
Le tout alors que les contrôleurs aériens avaient promis qu'ils ne feraient pas grève jusqu'à la fin de la séquence olympique. On veut vous entendre ce matin sur ce sujet. Appelez-nous au 3216. Est-ce que vous comprenez cette grève des contrôleurs aériens? Est-ce qu'ils ont raison de se mobiliser? Venez nous dire également, je ne sais pas si vous aviez un billet d'avion pour demain, comment ça se passe pour vous? Comment vous vous organisez? Est-ce que vous arrivez à gérer le stress qu'on imagine que tout ça engendre? Vous nous appelez 3216 et application RMC rubrique direct studio pour laisser vos messages également.
Réponse cet après-midi pour les 230 salariés de l'usine Duralex dans le Loiret, le tribunal de commerce d'Orléans qui va se prononcer cet après-midi sur la demande de placement en redressement judiciaire du fabricant de verre qui est en difficulté financière, subissant de plein fouet la crise de l'énergie, d'où l'inquiétude. Écoutez avec Cassandre Brault.
21 ans que ce salarié travaille chez Duralex. Il avoue la gorge serrée, être très inquiet de perdre son emploi.
Ça fait des années que je travaille ici, mon permis a fait rentrer il y a très longtemps. Et c'est vrai que non, sans lui, j'aurais pas eu de travail comme ça. Et puis, je sais rien faire d'autre, quoi, en fait.
Des angoisses partagées par une grande partie des salariés que côtoie François Dufresne, délégué CGT.
Les gens, ils sont inquiets. Surtout qu'on a eu une réunion sur le développement commercial, une présentation il y a 3 semaines. Et 3 semaines après, on nous met en redressement. Alors les gens, ils se posent des questions. Ils demandent un peu ce qui se passe.
Une nouvelle tentative de sauvetage, 3 ans après avoir été racheté par Pyrex.
On espère que tout le monde soit sauvé, que l'usine soit sauvée.
Duralex, c'est l'entreprise phare de la Chapelle Saint-Ménin, comme l'explique Valérie Barthe-Chenot, maire de la ville.
Il y a eu près de 1500 salariés sur ce site. Tous les habitants connaissent quelqu'un qui travaille ou qui a travaillé ici. Donc c'est toujours un choc d'apprendre les déboires de l'entreprise.
Le ministère de l'Industrie assure que l'État et la préfecture se mobilisent pour trouver un repreneur.
Il est 6h04 sur RMC. On a des nouvelles rassurantes de Kenji Girac ce matin.
Oui, le chanteur est tiré d'affaire, nous dit son manager 48 heures après avoir été blessé par balle sur l'aire de passage de gens du voyage à Biscarrosse dans les Landes, dans des conditions qui sont encore floues. Pierre Bourgès, correspondant de RMC à Bordeaux, où il est hospitalisé. L'enquête se poursuit.
Oui, les enquêteurs ont pu auditionner la femme, la tante et l'oncle de Kenji Girac. Ils indiquent bien qu'il se serait fait cette blessure seul. D'après les témoignages, le soir de l'incident, le chanteur et sa femme seraient rentrés du casino vers 3h du matin. C'est quelques minutes plus tard qu'un coup de feu a blessé l'homme au niveau du poumon et de l'intestin. Kenji Girac n'est pour le moment pas en état d'être auditionné, mais il reste encore des zones d'ombre pour les enquêteurs. Pourquoi avait-il cette arme avec lui? Qu'est-ce qu'il voulait en faire? Pour le moment, il y a encore beaucoup d'incompréhension du côté des proches de Kenji Girac. Admet Alban Travia, son co-manager. C'est en partie pour cette raison que la communauté des gens du voyage souhaite rester silencieuse pour l'instant.
L'information de la nuit, elle nous vient des États-Unis. Ou après le Congrès, voilà, que vous entendez, le Congrès qui a validé l'aide très attendue de 61 milliards de dollars pour l'Ukraine en guerre contre la Russie. Remerciement immédiat dans la nuit de Volodymyr Zelensky. Des armes envoyées dès cette semaine, voilà ce que promet Joe Biden. Ça faisait des mois que des républicains bloquaient ce vote. 26 milliards de dollars ont également été débloqués pour Israël après 200 jours de guerre contre le Hamas, au moment où Amnesty International nous dit que l'ordre mondial bâti en 45 après la guerre est au bord de la rupture, critiquant Israël et les États-Unis d'un côté et la Russie et la Chine de l'autre. Des accusations, tiens, en pleine campagne des européennes. On reparle de la liste du Rassemblement national après la polémique sur la numéro 2, Malika Sorel, qui avait fait des offres de service à Emmanuel Macron. Cette fois, il s'agit du numéro 3, Fabrice Ruggeri, accusé de complicité dans la mort de nombreux migrants. À l'époque, nous disent des associations, à l'époque où il était le patron de l'agence européenne de garde-frontières Frontex, Cyprien Pézeril.
Entre 2015 et 2022, Fabrice Ruggeri, alors patron de Frontex, aurait refoulé des bateaux de migrants des eaux grecques vers la Turquie. Il aurait aussi communiqué des coordonnées GPS d'embarcation aux autorités libyennes, pays où ces migrants risquent la torture. Et alors que le droit international oblige au contraire à porter assistance, voilà qui justifie donc une action devant la justice pour Marie-Christine Vergiat, vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme.
À partir du moment où ça cause des morts, ça peut constituer des crimes contre l'humanité. Et donc, M. Ruggeri a été complice en allant au-delà même des compétences qu'il avait à l'intérieur de l'agence Frontex. Notre travail était déjà engagé bien avant qu'on apprenne que M. Leggeri allait être candidat.
Joint par RMC, Fabrice Leggeri, désormais donc candidat RN aux européennes, dénonce, je le cite, des manœuvres politiciennes et assure que l'agence de garde frontière a respecté le droit et a sauvé plus de 350 000 migrants en mer. Le Rassemblement national qui d'ailleurs fait bloc. Marine Le Pen et Jordan Bardella accusent les associations à l'origine de la plainte de défendre, selon eux, une submersion migratoire.
C'est la semaine de tous les dangers, hein, vous le savez, pour les agriculteurs, avec le froid digne de fin février, alors qu'on est fin avril, jusqu'à moins 5 degrés mesurés par endroit depuis le début de la semaine, ce qui n'est pas sans conséquence, Martin Cadoré.
Une semaine que Joris Faudeau, viticulteur dans le Jura, surveille le thermomètre en permanence. Ce qu'il redoutait s'est produit dans la nuit de lundi à mardi.
La lune était pleine, le temps était clair. C'est là que ça fait des dégâts. Ça a attaqué à geler, il était 1h30, il faisait déjà moins. On avait 10 jours d'avance, les jeunes pousses étaient bien sorties. C'est une catastrophe. On pense avoir perdu 50% de la récolte.
Heureusement, Joris a pu sauver sa parcelle la plus précieuse en allumant des bougies. Ce n'est pas le cas de Gilles Gléron-Mondet en Savoie. Il a perdu 30% de sa récolte de pommes.
C'est 50 000 euros en moins. Nous, on n'a jamais protégé nos plantations. Les bougies, c'est quand même assez onéreux. Là, c'est vrai qu'on se dit, il faudrait peut-être mettre l'arrosage quand même. Ça devient compliqué de protéger tout, quoi. Un coup, c'est le gel, un coup, c'est la grêle, après, bah, c'est la sécheresse. Tout ça, c'est un coup, quoi.
Dans le Vaucluse, c'est la vigne qui a été touchée. Joël Bouscarle est le président de l'AOC Luberon.
On a des exploitations qui ont perdu les trois quarts de leur superficie. On va solliciter les pouvoirs publics, mais ce sont des petites mesures d'allègement de taxes ou de report d'échéance d'emprunt, voilà, pour essayer de passer l'année.
Lui-même, viticulteur, il mise sur de petites repousses les prochaines semaines pour limiter les dégâts.
Ouais, c'est peut-être ce soir que Paris va remporter son 12e titre de champion de France de Ligue 1. Trois matchs décalés, ceux des clubs qui jouaient la Coupe d'Europe la semaine dernière. Donc trois matchs ce soir, Paris à Lorient sera à 19h. Les Parisiens seront sacrés si Monaco ne gagne pas contre Lille à 21h dans la bataille pour le podium. Et à la même heure, il y aura aussi le choc de la Méditerranée, de la Méditerranée entre Marseille et Nice.
Ouais, grosse soirée en Ligue 1, évidemment, avec
ces matchs. Hein.
Ouais, que des grosses affiches qu'on suivra évidemment sur RMC ce soir. Merci beaucoup, Quentin. Tiens, le Paris Saint-Germain qui peut être sacré. Manu Le Chip, bonjour.
Ouais, franchement. Alors bonjour à tous d'abord. Franchement, non, mais il n'y a pas beaucoup de suspense. On va pas chercher à se faire peur avec le PSG champion ou pas. Ce qu'on veut, c'est qu'ils gagnent leur première Ligue des Champions.
Et ça,
on
en saura un peu plus la semaine prochaine.
Absolument,
mercredi
pour la plus
prochain,
belle
d'ailleurs.
Des compétitions au monde.
Luis Enrique, l'entraîneur parisien, rêve du triplé, du quadruplé.
Eh ben ouais, ben il peut. Hein. Ils sont encore engagés et ça me tourne plutôt bien pour le moment le PSG. Évidemment, on note le rendez-vous.
Faudrait qu'on prenne un petit pari si on fait le quadruplé là.
Ah, y a
qu'est-ce qu'on fait
ouais. On dit on carrément.
Bah oui, je peux pas le faire tout seul.
On peut s'engager peut-être pour Charles.
Bien les gars, super.
Oui, c'est ça.
On peut peut-être s'engager pour Charles.
C'est un grand blond, se couper les cheveux.
Pourrait se couper les cheveux, Charles. On va lui proposer s'il y a le quadruplé. En tout cas, on suivra tout ça et notez le rendez-vous, hein, évidemment, la semaine prochaine, le 1er mai, PSG Dortmund. Enfin, Dortmund PSG, je crois que c'est le match aller en Allemagne, demi-finale aller de la Ligue des Champions. Merci beaucoup, Quentin. On te retrouve à 7h pour un prochain journal. En attendant, on joue ensemble.
RMC, Charles Matin, êtes-vous bien réveillé?
Et on vous pose, comme tous les matins, une question pour repartir avec un beau cadeau.
Géraldine. Quelle profession du secteur aérien sera en grève demain?
La réponse, vous l'avez entendue dans tous les journaux depuis ce matin.
Et on en a beaucoup parlé.
On en a beaucoup parlé, tout à fait. Donc vous l'avez forcément entendu, vous l'avez forcément en tête. Donc vous pouvez prendre votre téléphone, envoyer le mot actu par SMS au 732-16. Actu par SMS au 732-16 pour gagner un joli cadeau, je le disais.
Ouais, un super radio réveil de la marque Muse pour vous réveiller avec RMC et ne pas manquer le début de Charles Matin.
Quelle profession du secteur aérien sera en grève demain? Si vous avez la réponse, vous envoyez le mot actu par SMS au 732-16. Bonne chance à tous.
RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin, Martin Bourdin.
Mais bon réveil, merci d'avoir choisi RMC. Il est 6h13.
L'invité de Charles Matin.
Bonjour Harold de Noël.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur RMC ce matin. Vous êtes le directeur adjoint des maladies infectieuses à Santé publique France. Et vous alertez ce matin sur la recrudescence des cas de dengue en France. Plus de 1600 cas recensés depuis le 1er janvier. Il y en avait 130 entre janvier et avril l'année dernière, donc sur la même période. Forcément, depuis le Covid, une telle multiplication de cas d'une maladie, eh bien, ça interroge, ça inquiète. Alors d'abord, pour qu'on comprenne bien de quoi on parle, docteur Harold de Noël, la dengue, on parle de quoi comme maladie? Quels sont les symptômes?
Alors, la dengue, c'est un peu ce qu'on appelle aussi la grippe tropicale. Les symptômes de cette maladie, c'est d'abord une fièvre qui va apparaître brutalement, avec des frissons, des maux de tête, des douleurs derrière les yeux. On peut avoir des nausées, des vomissements et des douleurs dans les muscles et dans les articulations. Et généralement, après 5 jours après l'apparition de la fièvre, il peut y avoir aussi des éruptions sur la peau, des boutons, des
plaques. C'est pas une maladie mortelle.
Alors, ce n'est pas une maladie mortelle dans la plupart des cas, mais dans moins d'1% des cas, il peut y avoir des formes graves où là, l'infection va provoquer en fait des risques d'hémorragie ou de choc, où là, la circulation est vraiment prise en difficulté et là, il y a des risques pour le pronostic vital.
Et donc, le nombre de cas, je le disais, est en forte augmentation depuis le début de l'année. Comment on explique ça ?
Ben on l'explique de façon assez simple. C'est des cas qui viennent à 80% de Guadeloupe et de Martinique et à 6% de Guyane, où actuellement on a des épidémies de dengue qui ne sont pas encore complètement finies, avec une transmission qui reste encore soutenue. Ces épidémies qu'on observe aux Antilles et en Guyane depuis l'année 2023, en fait, viennent apparaître dans un contexte de renforcement très important de la circulation de la dengue dans toute la zone Amérique, où là, on a des épidémies de grande ampleur, notamment
au
Brésil.
Donc, c'est des cas importés à chaque fois.
C'est ça, ce sont des cas importés, c'est-à-dire ce sont des gens qui vont voyager dans ces territoires-là et vont malheureusement ramener le virus dans leur sang. Donc si jusqu'au 1er mai, ça se limitait à des cas importés, à partir du 1er mai, c'est la période pendant laquelle le moustique tigre, un moustique que vous venez connaître qui est arrivé en France depuis 2004 et qui maintenant est présent dans 78 départements français, et qui est le moustique qui typiquement va empêcher les gens de prendre leur apéritif le soir dans le sud de la France. Malheureusement, ce moustique-là, il a la capacité de transmettre le virus de la dengue. Il va pouvoir capter le virus en piquant quelqu'un qui est infecté et le transmettre à son tour à une autre personne par la suite. Et quand ce moustique sera actif à partir du 1er mai jusqu'au 30 novembre, ben là, il est possible qu'il y ait des démarrages de transmission à partir de personnes qui rentrent avec le virus, à partir des cas importés.
Et ce qui vous inquiète, Harold de Noël, c'est la période qui arrive cet été, on le sait, on en parle suffisamment, il y a les JO partout en France, il y a beaucoup de gens qui vont venir d'un peu partout dans le monde. C'est ça le risque, qu'il y ait une multiplication des cas à ce moment-là ?
On s'attend à ce qu'il y ait possiblement plus d'introductions cette année, avec des cas importés qui rapporteraient donc du virus dans leur sang. Et avec les conditions qui sont les nôtres en France hexagonale, il y a des risques de démarrage, de transmission locale de la dengue par des moustiques locaux. Donc rien que par titre d'exemple, depuis 2010, on a eu 28 épisodes de transmission locale en France rapportés. Il y en a eu 9 en 2023 avec à peu près 45 cas. Donc on a vraiment ce risque qui est là. Et puis on a même eu un événement de transmission en région parisienne.
Quand vous dites transmission locale, c'est quelqu'un qui était infecté en France, piqué par un moustique tigre en France et qui a infecté une autre personne. Enfin, le moustique a piqué une autre personne qui a reçu... Qui a contracté le virus en France.
Tout à fait, ouais, c'est vraiment la chaîne de transmission. Le moustique arrive dans le sang de quelqu'un qui est infecté, qui se sent pas malade ou se sent malade. La présence de symptômes n'est pas forcément nécessaire pour qu'on puisse voir ce phénomène de transmission se passer. Le moustique tigre, qui est très agressif, va piquer cette personne, capter du virus. Le virus se développe dans le moustique et après, une chaîne de transmission peut se passer.
Et comment on se protège de tout ça, Harold Noël ? Comment on peut se protéger ? Comment on peut lutter ?
Alors, pour se protéger de tout ça, il y a plusieurs aspects. D'abord, quand on va dans ces territoires-là, il faut se protéger contre les piqûres de moustiques. C'est porter des vêtements longs, amples, couvrants, porter des répulsifs sur la peau. Quand on est dans des pièces, c'est bien de mettre la climatisation si c'est possible. C'est bien d'utiliser des insecticides en diffuseur. Ça permet de se protéger contre les piqûres personnellement. Après, il y a aussi des choses qui sont importantes à faire.
Et ça, c'est quand on est en voyage, mais en France, comment on peut se protéger pour éviter des infections locales, comme vous parliez ?
En France, il y a plusieurs choses pour faire pour se protéger contre les infections locales. D'abord, ce que je vous disais, la protection contre les piqûres de moustiques. Et puis, il y a tous les aspects qui sont un peu des aspects de santé publique, de travail ensemble, de collaborer ensemble là-dessus. C'est reconnaître vite la maladie, c'est-à-dire que toutes les personnes qui reviennent d'une zone où la dengue circule et qui ont de la fièvre doivent très rapidement aller consulter leur médecin pour qu'on puisse penser au diagnostic. Ce médecin va signaler à son agence régionale de santé le cas, et là il va y avoir une investigation, c'est-à-dire qu'on va rappeler la personne malade ou ses proches et demander dans la période qui a juste précédé l'apparition de la fièvre jusqu'à une semaine après, partout où elle s'est déplacée, pour pouvoir déterminer s'il y a des endroits où elle aurait pu être mise en contact avec des moustiques capables de transmettre la ningue. Et là, il y a un certain nombre d'actions qu'on va mettre en œuvre pour pouvoir casser la chaîne de transmission.
Et est-ce que des opérations de démoustication, ce serait efficace, par exemple? C'est ça qu'il faut mettre en place et développer à grande échelle?
C'est ce qu'on met en place. Ce sont des opérations de démoustication ciblées qui demandent cette investigation dont je vous parlais. Donc, cette investigation qui se fait avec les agences régionales de santé, Santé publique France au niveau régional, et leurs opérateurs de moustication, c'est vraiment une analyse précise. Pour chacun de ces cas, on revoit la liste des endroits où elles se sont déplacées pendant la période qui était un petit peu à risque de transmission, un jour avant les débuts de symptômes, jusqu'à une semaine. On va proposer et on va mettre en œuvre de la démoustication, c'est-à-dire des pulvérations chimiques d'insecticides, et ça, on fait ça vraiment de façon sécurisée, à des horaires où il n'y a personne dans la rue, où c'est des choses très protocolisées qu'on met en place en France régulièrement depuis 2010.
Donc c'est des opérations qu'on va mettre en place là, dans les prochains mois, dans les prochains jours, pour éviter une multiplication des cas sur notre territoire. Merci beaucoup, Dr Harold Noël, d'avoir été avec nous. Vous êtes directeur adjoint des maladies infectieuses à Santé publique France. Merci d'avoir été avec nous ce matin, 6h20 sur RMC.
RMC, Charles Matin.
Dans un instant, sur RMC, RMC Story, c'est Manu Conso.
Eh ben, je vais vous rassurer ce matin pour vous dire que vous récupérerez votre argent si votre banque fait faillite.
RMC, jusqu'à 6h30. Charles Matin, Martin Bourdin.
RMC, 6h21, l'heure de Manu le banquier.
RMC, Manu Conso.
Une bonne nouvelle, Manu, ce matin, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution se réjouit d'avoir enfin atteint fin 2023 sa cible de dépôts couverts.
Oui, alors quand on le dit comme ça,
j'ai rien compris à ce que j'ai raconté.
Évidemment, ça paraît un peu abscon, mais si je vous dis qu'en cas de faillite d'une banque, eh bien vous êtes sûr de récupérer votre argent, là, j'imagine que ça vous parle un peu plus.
Un peu plus, oui.
Alors, il faut rappeler que ce fonds de garantie, il est chargé d'intervenir en cas de défaillance d'un établissement bancaire. Chaque Français est couvert à hauteur de 100 000 euros par ce fonds. Je précise, 100 000 euros par compte. Donc, si jamais vous avez la chance d'avoir plus de 100 000 euros dans plusieurs banques, il n'y a pas de problème. Mais c'est toujours dangereux d'avoir plus de 100 000 euros
dans une seule banque.
Voilà, dans une seule banque et sur un seul compte. Et donc, en 2023, ce fonds de garantie a atteint son objectif de ressources fixé par l'Union européenne, soit 7,4 milliards d'euros, objectif destiné donc à garantir ce dépôt à hauteur de 0,5% de l'ensemble des dépôts couverts.
0,5, c'est rien?
Bah oui, alors quand on le dit comme ça, parce qu'on pourrait avoir l'impression que ce fonds, bah, il a l'équivalent de tout ce qu'on a en banque pour pas pouvoir nous rembourser. Non, pas du tout, effectivement, puisqu'il y a 1472 milliards sur nos comptes bancaires aujourd'hui. Mais l'idée vraiment de ce fonds, c'est de stopper les mouvements de panique. Et on sait que c'est ça qui est souvent préjudiciable à une banque qui lui fait faire faillite. C'est quand tous ses clients se ruent au guichet, se précipitent pour essayer de retirer leur argent. Là, on a la garantie que ce phénomène sera évité. Et puis, si ce ratio est bas en France, c'est aussi parce qu'on a peu de banques et que notre système bancaire est très concentré. Et rappelons aussi qu'il y a d'autres filets de protection, notamment un fonds européen de près de 80 milliards d'euros. Donc, on est sûr de retrouver son argent, mais pas au-delà de 100 000 euros.
Bon, c'est bien, c'est rassurant. Et si vous voulez continuer de vous rassurer, vous pouvez retrouver évidemment cette chronique comme toutes celles de Manu Le Chip. Toutes les chroniques Manu Conso sont à retrouver sur l'appli RMC et sur rmc.fr.
Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, partenaire premium de Paris 2024.
RMC, Charles Matin, êtes-vous bien réveillé?
Bonjour Cédric.
Bonjour.
Et bravo, puisque vous avez été tiré au sort ce matin pour jouer avec nous à la question d'actu. Pour ça, il va falloir donc répondre à cette question.
Quelle profession du secteur aérien sera en grève demain?
Les contrôleurs,
précisément.
Aérien.
Ouais.
Bravo, Cédric.
Il n'y avait pas un gros débat, il n'y avait pas un gros suspense. Bravo, Cédric, c'est gagné.
Vous avez gagné votre radio réveil de la marque Muse, donc pour vous réveiller avec RMC tous les matins.
Radio réveil qui part donc du côté de Maran en Charente-Maritime. Ça va pas trop vous embêter, cette grève des contrôleurs aériens, Cédric?
Bah écoutez, cette semaine non, je passe à travers, je ne me déplace pas, mais ça aurait pu, mais bon, je souhaite bon courage à tous ceux qui sont en déplacement.
Vous la comprenez, cette grève?
Oui, je la comprends, mais bon, c'est pas... Oui, je comprends.
On va en débattre ce matin, évidemment. On continue d'en débattre avec Sébastien Grapp. Mais déjà, d'abord, je vous rappelle qu'on continue à vous faire gagner sur RMC.
Eh ben, c'est génial.
Cédric est reparti avec son Radio Réveil. Et vous, vendredi qui arrive là, après-demain, on ne sera pas vendredi 13, on sera vendredi 26. Et à cette occasion, vous allez peut-être pouvoir gagner 26 000 euros tout au long de la journée. Donc de vendredi sur RMC, l'un ou l'une d'entre vous viendra gratter un ticket RMC pour gagner jusqu'à 26 000 euros. Vous vous inscrivez dès maintenant en envoyant le mot « chance » par SMS au 7 32 16. Chance par SMS au 7 32 16. Vous avez 5 minutes pour vous inscrire.